culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.
Bienvenue à toi, cher auditeur, dans notre culte Espoir. C'est un temps dédié que nous voulons vivre avec toi, mais aussi avec Dieu. Alors, si tu ne connais pas encore Dieu, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le côtoyer de près, si on peut dire ça comme ça, reste avec nous, ce culte est justement pour toi. On va te présenter comment on vit notre quotidien avec Dieu, comment on prie, comment on réfléchit à certaines thématiques avec le regard de Dieu. Et pour m'y aider, des chroniqueurs sont avec moi dans ce studio. Bonjour Marilyn, bonjour Stéphane.
Bonjour.
Merci d'être avec moi, vous allez m'aider, ma voix n'est pas encore tout à fait rétablie. J'y travaille. C'est en tout cas un plaisir d'être ensemble et nous accueillons le pasteur Pierrick Avelin. Bonjour Pierrick.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, merci de me recevoir.
Super. Alors, certains auditeurs te connaissent déjà parce que tu es, on peut dire, un habitué du culte espoir. Tu es déjà venu quelques fois.
Je suis déjà venu quelques fois, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas revenu.
D'où l'invitation. Alors, est-ce que tu pourrais peut-être te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas?
Oui, alors, je suis pasteur pas loin de Lausanne. Je me suis occupé jusqu'à présent principalement de la jeunesse. J'ai eu plusieurs églises. Je suis marié à Sabrina et j'ai une petite fille, Eliora, de 5 ans et demi.
Super. De quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui alors?
Alors, je vais vous parler d'un homme dans la Bible qui a dû sortir de sa zone de confort, et je crois qu'il a dû sortir très loin de sa zone de confort, et je vous propose qu'on puisse regarder ensemble jusqu'où ça allait, comment ça s'est passé pour lui, comment ça s'est passé avec Dieu, et peut-être voir si on a quelques pistes sur savoir ce qui s'est passé après.
Ah, alors moi, il y a un petit suspense là quand même, j'ai hâte de connaître la suite, merci. On se réjouit de te retrouver dans quelques instants, mais place à notre chronique maintenant, Dieu dans ma semaine.
Donc cette semaine, en étudiant le thème de la semaine, hein, sortir de la zone de confort, il y a pas mal de situations qu'on doit sortir de notre zone de confort. Moi, j'ai quelques-unes. Est-ce que vous avez quelques zones de confort, sortir de zone de confort que vous avez pour vous? Moi, j'ai changé de travail, déménagé, changé d'église, avoir d'autres projets ou d'autres choses. Je pense que tout le monde a déjà vécu ça, en fait.
Bien sûr.
Si on faut pasteur, on peut s'y changer beaucoup d'endroits, de quelque chose. Donc, on doit sortir de la zone de confort. Et parfois c'est stressant, parfois c'est horrible pour quelques personnes, parfois on n'arrive pas ou on se dit vraiment je suis pas capable de faire ça, ou si quelqu'un vous demande fais ce travail là, je suis pas du tout capable parce que moi je suis très bien dans mon petit coin. Pour ma part cette année passée c'était le changement complet. J'ai déménagé, j'ai changé d'église, changé de travail, changé de groupe d'amis. Voilà, donc c'est vraiment, je dis vraiment...
Mais t'as gardé ta femme.
Et bien sûr,
yes.
femme enfant, parce que ça, on change jamais.
Le pack.
Donc j'ai vraiment deux exemples vraiment concrets, j'ai dû vraiment sortir. C'est la première, c'est vraiment quand j'arrivais à la nouvelle église, on m'a donné déjà 3-4 départements directs. C'est une petite église. Et je suis vraiment à l'aise avec la technique, la sono, ça c'est beau. Mm-hmm. Mais l'autre, on m'a demandé de faire la traduction du français au portugais et portugais-français. Moi, c'est des années qu'on me demande, et chaque fois, je dis « Jamais de la vie, je ne peux pas faire la traduction, ma tête ne réfléchit pas comme ça. » Et j'ai fait. Et les gens sont très contents, et j'ai même dû faire de l'anglais, du portugais à l'anglais. Et là, c'était très difficile. En plus, avec le thème, c'était très compliqué, mais j'ai pu faire, et les gens, au contraire, au début, c'était stressant, je n'y arrivais pas. Et après, les gens disent « Non, non, très bien, merci beaucoup d'avoir pris ce temps, merci beaucoup d'avoir aidé à comprendre le culte, parce que pour nous, c'est très important d'avoir compris. » Donc, c'est difficile, mais après qu'on est de retour, je suis très content. Et là, maintenant, je fais de plus en plus en live des choses. L'autre exemple, c'est exactement ce que je suis en train de faire ici. Être chroniqueur. Comme Mildred m'a demandé de venir ici, moi, parler à la radio, moi, parfois, je bafouille. Voilà, j'ai du mal à parler. Je me suis dit, allez Dieu, si vraiment c'est vraiment ça que tu veux, j'y vais. Et donc, ma réflexion de cette semaine, c'est... Oui, c'est difficile de sortir avec la zone de confort. Mais si on sort de notre zone de confort avec Dieu, ça vaut 10 fois plus la peine que rester dans sa zone de confort sans Dieu.
Alors, la promesse du jour que je te propose aujourd'hui se trouve dans le livre des psaumes. C'est le psaume 103, des versets 6 à 8. Et en fait, elle est basée sur des caractéristiques de Dieu. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Il ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme méritent nos fautes. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Ah, c'est même psaume 103, des versets 8 à 11. Et pour moi, c'est une promesse qui est super précieuse parce que dans ces situations de vie où tout peut changer, comme tu nous partageais Stéphane, et si, voilà, où tout change, on peut peut-être des fois même se remettre en question sur certaines situations, on a des choix à faire, eh bien de retrouver ce texte où on nous parle de comment Dieu est, ses qualités, c'est même avec ces mots-là qui se présentent à plusieurs fois dans l'Ancien Testament, ben c'est rassurant et c'est précieux. Aussi pour peut-être corriger un petit peu certaines images qu'on peut avoir de Dieu et qui peuvent ressurgir dans ces moments difficiles. La confiance, est-ce que ça te parle, cher auditeur? Alors bon, moi si je pense confiance, avoir confiance, bah, c'est être sûr de quelque chose, avoir confiance en soi, bah, reconnaître sa valeur. Et puis, on connaît aussi les expressions « l'abus de confiance » ou « tu prends trop la confiance en ce moment », « perdre la confiance en soi » ou « en quelqu'un », « perdre confiance en quelque chose » aussi que d'expressions. Alors laisse-moi t'amener au travers de quelques chants vers ces questions de confiance. Le tout premier chant que nous allons entendre est du groupe malgache Anaya et il a pour titre « J'ai confiance » et il parle de notre confiance en Dieu.
Si je ne peux te voir ni sentir ta présence, j'ai tant d'amour pour toi, je te ferai confiance. Parfois je tombe, je m'en remets à toi. En toi j'aurai confiance. Tant de pensées me hantent tout au fond de moi. Et je me demande comment m'en sortir cette fois. J'ai confiance, ce n'est pas facile. Parfois toutes mes souffrances me détournent de toi. J'ai confiance dans le meilleur et le pire. Quand les lumières s'éteignent dans mes douleurs et peines, j'ai confiance.
Dans mes douleurs
c'est
belle.
Quand les lumières s'éteignent Dans les douleurs et peines, j'ai confiance.
Ce deuxième chant que nous allons entendre est composé par le chanteur gospel américain Fred Hammond. Alors que beaucoup de turbulences peuvent survenir dans notre vie, il nous invite à entrer dans une zone de confiance en Dieu. I will trust, je veux croire. Et oui, parce que la confiance en Dieu, ça se construit, mais c'est aussi un choix de vie.
There was a time I truly believed that I could do it on my own. But all that I found at the end of that road is that concept for me was all wrong. But I found a Savior who turned me around when He placed His love on me. And I will trust Him, yeah.
Nous sommes au Culte Espoir et si tu nous rejoins, c'est le bon moment parce que nous aurons dans moins d'une minute le témoignage d'Elsa et de Laurent. Dieu les a conduits hors de leur zone de confiance et finalement, ils en ont retiré de belles choses. Écoute plutôt.
Alors, il y a à peu près un an, on a eu à cœur de lancer un projet qui était de faire un concert de louanges avec un orchestre symphonique de 50 musiciens.
Mais aussi avec, effectivement, des instruments plus modernes pour mettre en avant un répertoire tout particulier, celui qui touche à la musique chrétienne, musique gospel, musique chrétienne contemporaine.
Le début de l'aventure, c'était qu'on devait trouver un partenariat. On a contacté une web radio, Advent Life, en leur disant, voilà, on veut faire
média,
un concert.
Même, Advent Life Media.
En leur disant, on veut faire un concert avec un orchestre de 50 musiciens et 10 chanteurs, est-ce que vous êtes partant? Ils nous ont dit, oui, c'est super, on vous suit. Mais on n'avait pas les 50 musiciens. Donc on a contacté ensuite les leads, et là, ils ont tous dit, oui, super, on y va. Ça avait commencé à peu près au mois de mai, au mois de novembre, on commence à recruter les musiciens, et là, on a 10 musiciens qui répondent à peu près présents. Donc là, on se dit, on est en décembre, en janvier, on a la première répétition, donc on a prié, on a lancé une pub sur les réseaux, et là, j'étais assez déçue parce qu'il n'y a qu'une personne qui a répondu. Donc en janvier, on n'avait pas nos 50 musiciens. On a vraiment mis ça en prière, et puis au fur et à mesure, des appels, des messages sont arrivés, un violoniste, différentes personnes, et au final, on s'est retrouvés en janvier avec nos 50 musiciens.
Non seulement tous des musiciens en question, mais des musiciens compétents en première répétition. On a eu le son, la musique qui s'installait, et on se disait, c'est extraordinaire, Dieu nous a envoyé les bonnes personnes.
Donc déjà ça, c'était très fort pour nous parce que ça nous paraissait impossible au départ. Et Dieu l'a fait parce que nous, on n'a pas fait grand-chose pour ça.
Et c'est en ça que ça nous a conforté dans l'idée qu'il fallait persévérer dans ce projet. Dieu venait d'apposer un petit peu sa signature en envoyant des personnes qu'on n'attendait pas et qui pour autant étaient compétentes et avaient envie de participer.
On avait demandé donc à Advent Life de nous aider à trouver une salle suffisamment grande pour pouvoir mettre tout ça de monde. Et puis, ils nous avaient fait la proposition d'une salle. Eux, ils avaient une équipe technique pour travailler avec nous. On a eu un gros coup dur en février, sachant que le concert au départ était prévu pour le mois de mai. Et en février, on fait une réunion et là, l'équipe nous dit, mais en fait, c'est pas possible techniquement de faire le concert dans la salle que l'on a prévue. Donc là, ils nous disent, c'est trop compliqué. En plus, nous, autant de monde, c'est trop compliqué pour nous de le faire. Donc, c'est pas possible. Donc, on se retrouve là, avec plus de salle, plus d'équipe pour nous accompagner sur le concert. Les musiciens, par contre, toujours là et motivés. Et donc là, a commencé vraiment un chemin auquel on n'aurait jamais pensé parce qu'on s'est mis en prière et on se retrouvait avec 60 personnes qu'on a mobilisées, qui étaient prêts, qui voulaient le faire, et puis on n'avait pas de lieu pour faire le concert.
Pendant tout ce temps, les répétitions ont continué.
On les a tenues aux dates prévues. Que pendant ce temps-là, nous, avec Laurent, on devait écrire toutes les partitions. Donc on passait tout notre temps libre, tout ce temps-là pour écrire.
Ne sachant pas où on allait interpréter tout ça.
Le concert allait pouvoir se faire. Quand on allait en répétition, on était stressés parce qu'on disait, mais qu'est-ce qu'on va dire aux musiciens? Comment on va faire pour leur dire, allez, on répète, mais par contre, on n'a toujours pas de salle. À chaque fois, quand on les retrouvait, eux nous disaient, mais nous, on vous suit. Nous, on sait que Dieu va nous ouvrir les portes. Alors c'est le message qu'on leur donnait aussi. Voilà, on fait confiance, on a confiance, on sait que Dieu nous conduit. Mais c'est pas facile dans cette posture-là, en fait, d'être le responsable,
tenir, c'est
celui
sûr.
Qui mène le projet. Oui, je crois que Dieu va nous ouvrir les portes, qu'il va nous donner une salle. Mais en même temps, on voit pas forcément les choses venir. Oui, je sais que Dieu va nous donner une salle, mais quand même, on la voit pas.
Puis, de l'autre côté, ceux qui organisent avec nous étaient aussi à nous dire, on vous suit, on est là, on y croit aussi.
Notre concert était prévu pour le week-end du 7 mai, et en avril, on n'avait toujours pas de salle. Un samedi où, avec Laurent, on a pris encore plus le temps de prier. Là, Dieu nous a a indiqué à Laurent qu'il fallait qu'on parle à Marie-Christine du problème de salle. Ce jour-là, on allait voir un ami évangélique et sur la route, l'esprit me dit « il faut qu'on lui parle du problème de salle ». On lui parle et il se trouve que depuis le début, moi je pensais à une salle, une grande salle en région parisienne, un centre chrétien, MLK, mais j'étais pas sûre que c'était la bonne salle. Donc je demandais à Dieu qu'il me confirme que c'était ça avant de se lancer. Donc ce jour-là, on parle à cet ami évangélique du problème de salle, mais je lui parle pas de mon idée. Et lui nous dit « Ah, écoutez, il vous faut une salle avec une scène de telle dimension. » Et puis il ajoute « Par contre, n'allez pas à MLK, la scène est trop petite pour vous. » Alors là, on reçoit ça avec Laurent, on se dit « Ah, bon bah là, Dieu est clair, c'est pas cette salle-là. » Le lendemain, on a répétition avec les musiciens. Puis là, il y a un des musiciens qui vient me voir et qui me dit « Écoute, ça fait un moment que je pense à MLK, mais je t'en ai pas encore parlé. » Là, je me dis « Mince !» Alors là, c'est la confirmation que j'aurais reçue, et sauf qu'on vient de me dire que c'est pas ça. Puis une autre amie, nous, qui était pas dans le projet, me dit « Mais t'as pensé à MLK pour le concert ?» Donc là, on se retrouve avec Laurent le soir de la répétition.
C'est pas trop sur quel pied danser.
Voilà, on sait plus quoi penser, et puis on n'a pas d'autres perspectives, en fait. Sur la route, Laurent me dit « Écoute, je pense à quelque chose, c'est que Marie-Christine, avec son groupe, elle a fait un concert à l'Opéra de Massy. Et puis mon ami, là, qu'on a vu aujourd'hui, a travaillé à l'Opéra de Massy. Tous les deux, on se dit « Mais MLK a une église et une antenne à Massy. » Là, se joue quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est qu'on se rend compte que peut-être Dieu nous amène à penser à l'Opéra de Massy parce qu'on doit faire le concert là-bas. Quelques mois auparavant, on n'aurait pas été prêt à entendre ça. On n'aurait pas compris. Trop grand, trop impensable. En fait, nous, on est habitués à faire des concerts dans nos églises que l'on connaît. Et là, on comprend que Dieu nous amène à se dire, c'est à l'Opéra de Massy.
Il faut dimensionner les choses différemment.
On contacte Marie-Christine, justement, qui devait être mandatée pour contacter les salles. Et on lui dit, écoute, il faut contacter l'Opéra de Massy. Et là, elle nous dit, oui, ok, d'accord, très bien. Alors par contre, je me suis renseignée, les opéras, c'est que pour les professionnels, donc c'est pas possible. Donc on va chercher d'autres salles. Et après avoir prier, on lui dit non, non, Dieu nous a indiqué ça, il faut demander. Donc elle a appelé et elle nous a contacté très vite en nous disant mais écoutez, c'est incroyable, l'Opéra de Massy est d'accord. Alors là, on n'en revenait pas, d'autant que les personnes qui sont dans le milieu professionnel nous disaient tous mais c'est pas possible. Pourquoi Dieu nous amène à aller faire ce concert dans cette salle-là? D'autant qu'on fait clairement de la musique chrétienne. Et ce que l'on a compris en fait avec cette expérience, c'est que Dieu nous demandait de partager avec les gens ce qu'il nous donne. Et nous, ben, nous donne de la musique. Et que c'était ça qu'il voulait qu'on puisse faire. Finalement, on a dû repousser la date du concert parce que la seule date disponible avec l'opéra, c'était en juin.
Le 24 juin.
Donc, on a dû repousser ça. Donc là, ça a été compliqué encore parce qu'on a perdu des chanteurs qui n'étaient plus disponibles. On a perdu quelques musiciens, des musiciens importants, hein, pianistes, guitaristes, etc. Donc, on a dû recruter de nouvelles personnes. Et là encore, c'est Dieu qui a agi, en fait. Et chaque semaine, on a eu des problèmes. Mais des gros problèmes. C'était, à un moment donné, c'était ah oui, mais pour réserver la salle, il faut la payer cash, 6 200 €. Mais nous, on n'avait pas ça dans la poche, même avec Advent Life. Enfin voilà, chaque semaine, jusqu'au bout, il y a eu des problèmes. Mais Dieu a été là. Après ce concert qui s'est très bien passé, à guichet fermé, la salle de 800 places a été remplie en à peine un mois. C'est que nos amis d'Advent Life nous ont dit chacun, c'est fou, on a appris à marcher par la foi, à faire confiance à Dieu. Nous aussi, on a eu besoin d'eux, en fait. Il y a des moments où nous, on doutait, et eux nous ont dit, mais on fait confiance à Dieu, on y va par la foi. Ça a été vraiment sortir de notre zone de confort parce qu'on n'avait pas la visibilité, on n'avait pas forcément les solutions, mais on continuait. On continuait à travailler. On a lancé un crowdfunding pour avoir les sous pour payer la salle. On a fait la pub, on n'avait pas encore signé le contrat de la salle et on disait déjà aux gens, on va faire un concert à l'Opéra de Massy.
Presque d'un point de vue humain, mettre la charrue avant les bœufs, mais c'était surtout avancer par la foi.
Alors Pierrick, sortir de sa zone de confort, de sa zone de confiance, on veut en savoir plus.
Alors, je vais essayer de vous en dire un petit peu plus pour peut-être voir si vous devinez. Peut-être que avec ce thème de sortir de sa zone de confort, vous avez déjà un ou plusieurs exemples de personnages qui pourraient vous venir à l'esprit si vous connaissez certaines histoires de la Bible. Peut-être un autre indice, son nom veut dire colombe. Alors peut-être ça aide, peut-être ça aide pas. Mais c'est vrai que quand on pense à l'animal de la colombe, on pense à la paix, l'espoir, la pureté. Et si vous deviez donner un personnage qui colle à la colombe, vous donneriez peut-être un personnage comme Gandhi, Martin Luther King, l'abbé Pierre ou je ne sais quoi. Et pourtant le personnage que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, que j'aimerais partager avec vous, c'est le personnage de Jonas. Son nom veut dire colombe. Donc assez étonnant quand on connaît son histoire et ce qui s'est passé, ce personnage un peu rebelle qui a pas toujours voulu suivre ce que Dieu lui avait demandé, un peu une tête brûlée, on pourrait dire. En tout cas, c'est pas le personnage à qui on se comparerait. Et pourtant, Jésus s'est comparé à Jonas. Et pourtant, les spécialistes de l'Ancien Testament disent que l'Ancien Testament ne serait pas complet si le livre de Jonas n'était pas dedans. Donc peut-être une importance qu'on sous-estime avec ce personnage et ce livre, et c'est ce que je vous propose qu'on puisse regarder ensemble, de découvrir un peu qu'est-ce qu'il a dû vivre, à quel point il a dû sortir de sa zone de confort. Et alors, on va pas lire tout le livre ensemble, mais je vais quand même vous retracer un peu le récit. On est au 8e siècle avant Jésus-Christ. On se trouve sous le règne d'un roi qui s'appelle Jéroboam II, et c'était un siècle qui était assez turbulent dans la région. Mais venons-en à l'histoire maintenant directement. Le récit commence de manière un peu brutale. Si vous lisez le chapitre 1, verset 1, il n'y a pas tellement d'introduction, on est de suite mis dans le bain. Dieu appelle Jonas pour aller convertir un peuple, les Assyriens, dans la ville de Ninive, qui est leur capitale. On sait peu de choses sur Jonas. Est-ce que c'est son premier appel? Est-ce qu'il a une longue expérience avec Dieu? On ne sait pas. On sait juste que sa réaction face à ce Dieu qui l'appelle, c'est de vouloir partir. Et c'est ce qui nous fait qu'on le voit un peu de manière négative, parce qu'on lui dit, mais non, si tu es prophète, homme de Dieu, Dieu t'appelle, tu y vas. Tu ne vas pas vouloir faire l'inverse. Et lui veut suivre. Mais sa fuite semble assez disproportionnée. Il est en Israël, de l'époque, donc vous voyez sur une carte à peu près où ça se situe. Il doit monter au nord vers Ninive, vers les Assyriens, et puis lui veut partir à Tarsis. Tarsis, c'est, on pense que c'était au sud de l'Espagne, donc à 7600 km de là. Donc on se dit, ça semble assez ridicule. Il aurait pu aller en Égypte, il aurait pu partir dans des... Enfin, il veut vraiment partir à l'autre bout du monde connu à l'époque, puisque le bassin méditerranéen, on connaissait peu de choses assez autour. Et on se dit, mais c'est ridicule, pourquoi est-ce qu'il veut aller aussi loin? C'est un prophète, il est censé obéir à Dieu. Mais je crois que si on regarde un peu le contexte, on peut peut-être arriver à comprendre à quel point ce que Dieu lui demande est loin de sa zone de confort. Il faut voir la tâche déjà que ça représente. Première difficulté, c'est que Dieu lui dit « Tu vas à Ninive, Ninive c'est 900 km de là ». Il doit d'abord faire un voyage de 900 km avec les moyens de l'époque. Donc imaginez que je vous dise maintenant « Tu vas partir à Madrid ou à Valencia en Espagne ». Oui, enfin, en voiture, déjà, on hésiterait, à pied ou à dos de chameau. On se dirait, mais c'est quand même long, je vais pas faire 400, 900 kilomètres et quand je devrais retourner chez moi, c'est la même distance. Et pour aller évangéliser, une grande ville. Et puis, c'est pas n'importe quelle ville. Les Ninivites, c'était la ville la plus importante de la région, la capitale des Assyriens. Les murailles mesuraient 12 kilomètres, pour une superficie de 750 hectares. Le texte biblique va nous dire qu'il y avait 120 000 habitants. Donc il doit seul aller évangéliser une ville de la taille à peu près de Berne aujourd'hui. Genève, c'est 200 000. Donc c'est comme si vous étiez deux pour évangéliser tout Genève. Donc il dit, attends Seigneur, comment moi, une personne, je vais parler à 120 000 habitants et leur permettre de se convertir. Et le dernier élément qui montre à quel point c'est inconfortable pour Jonas, c'est qu'il ne doit pas aller évangéliser n'importe quel peuple. Il doit évangéliser les Assyriens, le peuple le plus puissant, le plus cruel de l'époque. Un peuple qui avait mis en place une véritable politique de terreur. Ils étaient tout particulièrement cruels envers les Israélites. Ils avaient mis en place un système de surveillance, de renseignement dans chaque région, auprès de chaque petit chef de province, et ils savaient quand attaquer, et quand ils le faisaient d'une manière dure et cruelle. Ils détruisaient tout sur leur passage, déportaient la population, et pratiquaient aussi toutes sortes de tortures et d'expériences que ce ne serait pas utile que je vous décrive maintenant. En fait, pour peut-être mieux comprendre ce que ça représentait, excusez-moi le parallèle, mais je crois que pour Jonas, ça représentait ce parallèle-là, on pourrait dire que ce serait comme demander à un juif, pendant la Seconde Guerre mondiale, dont sa famille a été déportée et tuée, d'aller évangéliser les nazis à Berlin. Et il faut l'avouer, ça représente quand même beaucoup. Et c'est quand même assez gros de se dire, mais attends, Seigneur, tu me demandes vraiment d'aller faire 900 kilomètres, d'aller déjà évangéliser quelqu'un qui n'est pas, pour les juifs à l'époque, ceux qui n'étaient pas juifs, Dieu n'était pas pour eux. Il faut aller leur parler, 120 000 habitants, tout seul, et puis eux, demande-moi n'importe quelle autre ville s'il te plaît, mais pas eux, le mal absolu. Et on comprend peut-être un peu mieux avec ce contexte, se dire, ah ouais, je pense que si j'avais été Jonas, j'aurais fait la même chose. Je serais parti le plus loin possible parce que, et converti, sauf qui tu veux, Seigneur, mais sauf pas eux. Parce que c'est, tu peux pas te permettre de faire ça. Et donc la suite de récits, il prend une montante de ce bateau qui va à Tarsis, il y a une tempête qui fait rage, une tempête très violente, les marins, pour qui ça ne devait pas probablement être la première, ne savent pas trop quoi faire, et l'un d'eux va avoir une réaction assez rigolote et intéressante, ils vont dire à Jonas de prier son Dieu. C'est assez rigolo hein, de voir que c'est un non-croyant qui va rappeler aux croyants de prier son Dieu. Et je trouve ça assez impressionnant, parce que ben, c'est parfois ce qu'on peut constater dans notre vie, c'est parfois notre entourage ou des personnes autour de nous qui ne sont pas croyants, qui disent « Mais attends, toi, tu n'es pas chrétien ?» Alors pourquoi tu fais pas comme ça? Ou pourquoi tu pries pas ton Dieu? Ou pourquoi tu... Comment ça se fait que tu vis pas tout en conséquence du fait que tu es croyant, en fait? Et c'est souvent des non-croyants qui nous rappellent à l'ordre, et je trouve ça assez des beaux clins d'œil de Dieu quand ça arrive. Puis vient la suite de l'histoire, vous la connaissez sûrement, hein, Jonas va être jeté à l'eau, va être avalé par un gros poisson. On sait pas vraiment lequel, mais on sait qu'il va y passer 3 jours dedans. C'est l'occasion pour lui de prendre conscience de son erreur, de faire confiance en Dieu. Il prie. Et il accepte la mission et il va prêcher le message suivant, on l'a au chapitre 3, verset 4. Dans 40 jours, Ninive sera renversée ou Ninive sera détruite, ça dépend des versions. Moi, quand je lis ce texte, je me pose une question. Quand on sait après la réaction de Jonas par la suite, le texte biblique va dire le message que donne Jonas à Ninive, mais on ne sait pas le message que Dieu a demandé à Jonas de dire. Et des fois, je me dis, est-ce que Jonas, il s'est dit, bon, je vais quand même accepter parce que le message, c'est quand même que Ninive va être détruite. Peut-être que c'est la bonne occasion d'aller se débarrasser d'eux. Et est-ce que le message de Jonas était vraiment mot pour mot ce que Dieu lui a demandé de dire? Ou est-ce que Jonas s'est dit, ah, 40 jours, Ninive détruite, notre plus grand ennemi enfin éliminé. Allez, pour finir, j'accepte cette mission, j'y vais. On ne sait pas, hein, c'est une pure spéculation, mais je me dis, peut-être c'est pour ça, en tout cas, le reste du récit nous porte à croire qu'il n'est quand même pas content que Ninive se convertisse. Parce que c'est vrai que face à cette parole, tous les Ninivites vont se convertir. Il va y avoir un impact incroyable, un décret royal va être émis. Là où aujourd'hui on serait heureux d'avoir un ou deux convertis, lui il part, une personne, 120 000 convertis.
C'est incroyable.
C'est quand même incroyable, en 3 jours. Et je crois que c'est... peut-être une leçon pour nous, parce que si Jonas n'a pas vraiment donné le message que Dieu lui avait demandé de donner, mais qu'il a quand même eu cette conversion, c'est de voir aussi que malgré nos erreurs, malgré des fois nos incompréhensions, Dieu est capable de transcender tout ça. Dieu est capable de quand même toucher les cœurs et de quand même nous utiliser, même si on ne comprend pas tout bien parfaitement. Parfois, la peur de l'erreur, la peur de l'échec peut nous dire « Non, je ne vais pas sortir de ma zone de confort, je ne vais pas aller jusque-là, parce que si je fais une erreur, c'est fini. Ben, » Dieu est au-dessus de ça, Dieu est plus grand que tout ça, et capable de toucher les cœurs malgré nos faiblesses et les erreurs qu'on peut faire. Donc n'ayons pas peur de faire mal, pourvu qu'on recherche sans cesse l'inspiration de Dieu, bien sûr. Et puis, une fois que les Ninivites se sont convertis, en fait, le livre de Jonas aurait dû s'arrêter là. Aurait pu, mais je pense même aurait dû s'arrêter là. Il va pour convertir les Ninivites et c'est bon. Happy end.
Fin de l'histoire.
Fin de l'histoire, tout va bien. Mais en fait, le livre de Jonas n'a pas comme sujet principal la conversion des Ninivites. Le livre de Jonas a comme sujet principal Jonas. Et en fait, quelle va être sa réaction? Le chapitre 4 commence en disant « Jonas prit très mal la chose et se mit en colère. » Il prend la chose très mal. Qu'est-ce qu'il prend mal? C'est la conversion, c'est la grâce. Il n'est pas content que des gens soient sauvés, que des gens soient convertis. Alors, on le comprend, bien sûr, avec le contexte qu'on a vu au départ. Il se fâche de la grâce de Dieu. Et il va lui dire la chose suivante. C'est le verset 2. « Ah Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pourquoi j'ai fui vers Tarsis. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur tes menaces. » Et j'aime bien parce qu'on aurait pu le dire avec d'autres mots. Moi, j'imagine Jonas comme s'il pouvait dire « Je savais que tu étais encore fichu de les sauver, tu les as sauvés, quoi. Tu les as pardonnés. T'es cap. » Et on voit qu'il les reste dans cette colère, dans cette incompréhension, parce qu'il s'était fait, et c'est pour ça que je pense qu'il s'était fait cette idée que Ninive allait être détruite et qu'il a peut-être un petit peu changé le message parce que ça l'arrangeait bien à ce moment-là. Et je trouve que ce qui va arriver après, c'est de voir comment Dieu va réagir face à ce prophète qui en fait a été tellement bousculé dans ses conceptions, dans sa zone de confort, que en fait on va apprendre sur Dieu. Bah, c'est dans les moments de crise qu'on voit que les personnes se révèlent, et c'est de voir comment Dieu va se comporter avec lui est assez intéressante, parce que Dieu va lui dire: fais-tu bien de te mettre en colère? En phrase peut-être anodine, mais parfois on est tellement mis en colère que notre capacité de raisonnement, de réflexion est parfois éteinte, annihilée complètement. Et Dieu essaie de le ramener et de dire: attends, réfléchis bien du pourquoi tu es en colère. Est-ce que tu as raison de te mettre en colère? Face à ce prophète rebelle, en fait, il le jette pas au loin, il le condamne pas, il le frappe pas, il essaie de l'amener à une réflexion, il essaie de le faire avancer. Parce que Dieu aussi comprend les difficultés que ça devait être pour lui. Et quand nous aussi, on doit sortir de notre zone de confort, il sait que c'est pas forcément évident. Et j'aime bien voir ce Dieu qui est patient. Et Jonas n'en démord pas, il va se poser la question: qu'est-ce qui va pas chez Dieu? Le problème vient pas de lui, moi je vais bien. Qu'est-ce qui va pas chez Dieu? Et il va aller jusqu'à demander à mourir. Ce qui est quand même assez fort. Et c'est quand même assez impressionnant de voir ce Dieu qui essaye de reprendre ce prophète, qui essaye de, même si il va être accusé, même s'il va demander la mort. Et vous savez qu'il y a cet épisode où il y a un ricin qui va pousser, il se met à l'ombre dessous, le ricin va sécher et mourir. Et il va, et c'est suite à ça qu'il va demander lui de mourir, parce que c'est trop pour lui.
Et le petit ricin,
la goutte d'eau qui faisait: ah non, en plus, même ça, ça meurt. Et Dieu va lui dire, et le livre se termine de cette manière un peu bizarre, où Dieu va intervenir et va lui dire: écoute, cette plante ne t'a donné aucun travail. Ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit, elle a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon ou mauvais pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Et vous l'avez compris, le livre termine là-dessus. Et vous l'avez bien compris à l'intonation, le livre termine bien par une question. Ce qui est assez bizarre, hein. En général, on ne termine pas un livre par une question. Là, on aimerait bien une suite. Là où, autant avant, on aurait pu conclure le livre à la conversion des Ninivites. Là, on termine par cette question, et ce Dieu qui essaie de l'interpeller en disant: attends, tu te plains de ma compassion, mais toi, tu as une compassion pour cette petite plante qui t'a rien coûté, et moi, c'est quand même mes enfants. Ok, ils ont fait des choses mal, mais pourquoi j'aurais pas compassion d'eux? Et le livre se termine par une question. En général, quand un texte se termine par une question, c'est pour interpeller l'auteur, ceux qui ont le texte entre les mains aujourd'hui. Et en fait, on sait peu de choses, parce qu'au final, on voit ce Jonas qui a été bousculé de sa zone de confort, on voit Dieu comment il se comporte avec lui, plein de patience, il essaye de le ramener, et on ne sait pas la suite. On aimerait bien savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé pour Jonas après? Est-ce qu'il a été interpellé parce que Dieu lui a posé comme question là? Est-ce qu'il a compris les choses ou pas? Est-ce qu'il a changé? Parce qu'en fin de compte, c'est ça qui est interpellant, parce qu'on voit, ok, Dieu est patient avec moi quand je dois sortir de ma zone de confort, mais quelle est la suite en fait après, derrière? En fait, si vous regardez la plupart des commentateurs du livre, des commentaires bibliques du livre de Jonas, tous les commentateurs s'accordent à dire que c'est Jonas lui-même qui a écrit ce livre. Il n'y a pas tellement d'arguments pour dire le contraire. Et la plupart des commentaires bibliques disent: non, c'est Jonas qui a écrit ce livre. Et je ne sais pas pour vous, mais si vous devez raconter une expérience que vous avez vécue avec Dieu, où vous avez fait pas mal d'erreurs ou d'incompréhensions, vous avez été pas mal bousculé, en général, vous allez avoir un petit moment dans le texte où vous allez dire: oui, mais j'ai changé aujourd'hui, j'ai appris ma leçon. J'ai... Et là, Jonas, en fait, on a l'impression qu'il s'en fiche de quelle image de lui son texte, son livre va donner. Le plus important pour lui, c'est quelle image de Dieu il donne à travers son récit. Et si c'est lui qui a écrit ce livre, ça veut dire qu'une seule chose, c'est qu'il a compris. C'est qu'en fin de compte, il avait des préjugés sur ce qu'était être un Dieu bon et compatissant, parce qu'en fait, beaucoup de commentaires bibliques résument le livre avec le verset 2 du chapitre 4. « Ah, je savais que tu étais un Dieu bon et compatissant. » Et en fait, il est passé d'une théorie où, avec des préjugés dans sa fausse zone de confort, où il n'avait pas bien compris ce que c'était vraiment la grâce et la bonté de Dieu, à une réelle compréhension de jusqu'où pouvait aller cet amour, cette compassion et cette bonté de Dieu, parce que Dieu avait réussi à le faire sortir de sa zone de confort, à l'accompagner même s'il ne comprenait pas et qu'il demandait jusqu'à mourir, et en fait se rendre compte, ben oui, en fait, l'amour de Dieu va jusque-là. Et parce que j'ai pu sortir de mon petit cocon, de ce que je croyais être juste, faux, eh ben, j'ai pu comprendre jusqu'où allait cette bonté, cette grâce, et peut-être pour ça aussi que ce livre est un tel exemple pour nous, de pouvoir se remettre en question, de pouvoir pas hésiter aussi à avoir peur de dire à Dieu ce qui va pas. Et c'est ce que j'aime aussi avec Jonas, c'est que il y en a parfois, on peut avoir cette tendance dans les moments difficiles dans lesquels on comprend pas, d'en vouloir à Dieu, et parce qu'on en veut à Dieu, on veut plus lui parler. Ce que j'aime à Jonas, c'est que, ou alors on s'interdit de crier à Dieu, on s'interdit de lui dire, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? C'est quand même fort, un prophète qui va accuser Dieu. Et ce que j'aime, c'est que Jonas, à aucun moment, il va couper le dialogue. Ok, première fois, il essaie de fuir, c'est vrai. Mais après, quand Dieu le rattrape, il va dialoguer, il va dire, il va être capable de dire tout ce qu'il a sur le cœur. Et parfois, souvent, je dis ça, des fois, en discutant avec d'autres personnes ou avec des jeunes, c'est dans les moments difficiles, même si ça va pas, je préfère que vous criez à Dieu, limite que même vous le grondiez, ou vous dites, mais je comprends pas, que de plus lui parler du tout. Et parfois, c'est ça qui pose problème, c'est que on est vexé, on comprend pas, on est en colère et on est révolté et on s'interdit de crier à Dieu, on s'interdit de lui dire ce qui est dans notre cœur, alors que peut-être il vaut mieux garder ce lien, ce dialogue plutôt que de couper la liaison. Et ce que j'aime de ce Jonas, c'est qu'il a gardé ce lien, mais surtout dans ce deuxième temps, il a su se remettre en question, découvrir ce que Dieu lui a voulu lui faire découvrir, en plus d'avoir converti une ville de 120 000 personnes, ce qui est quand même un miracle extraordinaire. Et donc voilà, je vous encourage à faire cette expérience. Si vous êtes amené parfois à sortir de cette zone de confort, bah, dialoguez avec Dieu, dites-lui ce qui ne va pas. Et quitte à même faire comme Jonas, mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et puis peut-être que Dieu, vous verrez, à cette patience, c'est que c'est pas facile pour nous, à cette patience aussi de nous faire grandir, de nous amener à cette prise de conscience de peut-être qu'il y a autre chose. Et on sait pas combien de temps il a fallu entre le moment où il vit ça avec Dieu et où il a pu enfin écrire son livre. Peut-être qu'il y a eu du temps, et de laisser aussi parfois le temps nous laisser prendre conscience que, ah ouais, on a beaucoup plus grandi en fait en étant sorti de cette zone de confort, de confiance, qu'en étant resté là dans le statu quo de nos vies. Donc, que le Seigneur nous bouscule. J'espère non plus pas trop fort, mais quoi qu'il en soit, je sais que si vous êtes avec lui, en lien avec lui, ça sera toujours une expérience extraordinaire.
Merci Pierrick pour ce partage, on peut apprendre beaucoup de cette histoire. Je me tourne vers vous mes collègues, commençons notre chronique et toi ça te parle. Alors en quelques mots, quelles sont les leçons que vous tirez de ce culte aujourd'hui?
Moi j'ai retenu cette idée de garder le lien à tout prix. Garder le lien avec Dieu dans cette turbulence et cette bienveillance de Dieu, comme on voyait aussi avant, qui aime et qui sait qui va suivre. Il laisse, mais il veille.
Moi, ce que je retiens, c'est vrai que Dieu a demandé à Jonas de sortir vraiment de sa zone de confort, quoi, un truc du simple au double, en fait. Forcément, comme tu le disais, beaucoup de kilomètres, un peuple qui était un peuple ennemi, qui faisait peur. Et oui, ça fait toujours peur de sortir de sa zone de confiance ou sa zone de confort, sa zone de contrôle, en fait. Et je crois que Dieu, il aime vraiment, parce qu'il nous aime avec beaucoup d'amour, et il aime du coup nous conduire dans des zones où on sort de notre contrôle. Parce que c'est vraiment un lieu où on va pouvoir avec lui investir davantage de zones de confiance en lui, de zones de lâcher prise où lui va pouvoir agir à sa manière. Et quand lui intervient, c'est toujours très beau, toujours très beau. Mais c'est vrai que ça nous demande beaucoup de vulnérabilité, d'accepter de suivre ce que Dieu est en train de nous dire, alors que peut-être qu'autour de nous, on va nous dire « Non mais tu te rends compte, tu vas faire ça, mais c'est des ennemis, mais enfin... » Et puis tout le monde peut sortir plein d'arguments qui pourraient nous dire « Non mais, je suis en train vraiment de partir dans un endroit qui joue pas. » C'est s'affranchir de tout ça et oser faire ce pas de confiance avec Dieu et de dire « Ok Seigneur, je vais essayer de voir ce que ça va donner. » Peut-être en sachant que Dieu, en se répétant que Dieu fait les choses bien, ça peut peut-être nous aider. Et un encouragement pour nos auditeurs, c'est quelque chose que j'essaie d'expérimenter aussi, c'est que petit à petit, quand on sort de notre zone de contrôle, on rentre dans une zone qui est très difficile parce que on la connaît pas, on la maîtrise pas, on sait pas ce qui se passe. C'est cette zone justement de, en dehors de notre zone de confiance. Et petit à petit, quand on aura fait ce pas-là, d'avancer un tout petit peu, tu parlais aussi d'un déménagement, d'un changement d'emploi, ça fait toujours très peur, changement d'église, enfin, il y a plein de changements qu'on vit dans notre vie, en tout cas, des étapes. Petit à petit, quand on est sorti de cette zone-là, eh bien, on se rendra compte que on va commencer à trouver des marques, des repères. Et ces zones de... Enfin, ces hors-zones, on pourrait dire comme ça, deviennent des zones, finalement, qui seront des zones de confiance. Ça veut dire que petit à petit, quand on aura accepté avec Dieu de sortir de notre zone de confiance, en réalité, on va l'élargir. On aura un espace beaucoup plus grand, un territoire de vie beaucoup plus intéressant. Mais voilà, il y a ce petit pas à faire. Et c'est vrai que moi, je suis souvent un peu comme Jonas. Je me dis, ah, je pars, au revoir. Eh ben, ça serait dommage de rater ça parce que ben, la preuve, hein, c'est qu'on a une super belle histoire de Jonas dans la Bible qui nous apprend des belles choses.
Et juste quelque chose en plus pour moi aussi, parce que chaque fois où je me pose la question, pourquoi ce livre est dans la Bible? Et je trouve impressionnant, c'est même quand parfois on part dans un chemin, Dieu nous a préparé un chemin A, parfait, il sait tout. Parfois, on ne veut pas suivre ce chemin A là. Donc, on part de l'autre côté. Mais Dieu, avec sa grâce, nous remet. C'est vrai que ce n'est pas le chemin A, c'est le chemin B. Moins bon que le A, mais au moins il te remet sur le bon chemin qu'il voulait vraiment. Donc Jonas est parti de l'autre côté. Ok, tu veux partir, je te laisse tout seul. Il y a la tempête et tout ça, mais quand même, si tu me demandes, je suis là de nouveau, je te reprends. Alors tu veux suivre avec moi, on y va ensemble. C'est donc, c'est parfois c'est difficile.
Il y a un Dieu qui s'adapte.
De s'adapter. Pour lui, c'est mieux qu'on le suive directement son chemin, mais c'est ça, c'est qu'on fait vraiment confiance à Dieu. Là, notre zone de confiance, notre zone de confort, c'est presque. Tout le temps, parce qu'on est avec Dieu.
Pas mal.
Donc, je pense qu'on peut encore parler beaucoup ici entre nous. Donc, maintenant, on a un temps un peu plus court. Donc, maintenant, à toi, cher auditeur, auditrice, prends le temps, écoute cette histoire avec vos amis et partagez, discutez de ce thème. Est-ce que si vous, c'était important ou pas, est-ce que vous parlez de cette histoire?
Alors, cher auditeur, tu es au Culte Espoir et c'est maintenant le temps de la chronique « Dieu dans les arts ». Et cette semaine, je voudrais te partager un livre. « Le vrai changement, c'est maintenant » de David Platt.
Voilà.
Un joli livre que je dirais facile d'accès, mais attention, j'allais quand même pas vous proposer un truc trop confort. Hein. Il pourrait bousculer un petit peu dans nos chemins, dans nos réflexions. C'est... En tout cas, le sous-titre de ce livre, c'est « Pour que notre vie ait un impact aujourd'hui ». Alors voilà, vous voyez l'idée. Alors, David Platt est donc pasteur aux États-Unis, à Washington. C'est un chrétien engagé, il est auteur de plusieurs livres et aussi responsable d'un département qui organise le partage de la foi dans les églises, autour, dans la société. Et un jour, il est abordé par un chrétien du Népal qui l'invite à le rejoindre dans sa réalité qu'il vit au Népal à travers un trek qui est organisé par son association dans l'Himalaya. Et donc c'est parti, notre auteur accepte de relever ce défi et il se retrouve dans une région du coup très pauvre, isolée, avec entre autres une religion principale qui est complètement différente de ce qu'il a l'habitude. Et là-bas, il rencontre aussi des chrétiens engagés pour qui, malgré la réalité particulièrement difficile de cet endroit, eh ben, pour eux, ça, leur foi fait sens. Et il est vraiment bousculé dans plusieurs aspects de sa vie de foi, sa vie de chrétien, voilà. Et il note toutes ses réflexions dans un carnet. Et en fait, eh bien, ne vous attendez pas à un livre théorique, parce que c'est plutôt un journal de bord qu'il nous partage ici, avec chaque chapitre les événements de la journée, ses réflexions, ses échanges avec Dieu. Et puis, il nous épargne les difficultés physiques du voyage, les risques de malaria, les chemins escarpés, l'hélicoptère et tout ça. mais pas la réflexion. Donc à la fin du chapitre, il y a quelques pistes de réflexion qui nous permettent de le rejoindre dans son cheminement sur l'impact que ça peut avoir dans nos vies. Alors, un petit partage authentique qui explore l'évangile, un évangile qui puisse transformer nos vies. Et si à travers cette lecture, ça nous mettait en disposition à ce que Dieu désire accomplir dans nos vies et par nos vies. Et voilà maintenant, après tout ce temps de partage, eh bien, nous voudrions prendre un moment pour parler à Dieu. On a parlé de garder le contact ouvert, d'échanger sur ce qui nous tracasse. Eh bien, c'est ce qu'on voudrait vivre ensemble. Et Pierrick, est-ce que tu veux bien nous prêter ta voix et tes mots pour ce moment ?
Avec plaisir, prions ensemble. Oui, Père, je te remercie parce que tu sais que dans ce monde, que ce soit en répondant à ton appel, mais parfois aussi avec les aléas de notre vie, nous sommes bousculés, ballottés, nous sommes amenés à sortir de ce cocon que nous nous fabriquons. Parfois, nous en avons besoin et tu veux nous apprendre des choses. Parfois, c'est le mal qui nous tape, nous frappe et nous met dans une situation difficile. Quelles que soient les situations de nos vies, je sais que, et je veux te remercier parce que tu es toujours là à nos côtés, toujours prêt à nous prendre par la main, toujours prêt à nous permettre de grandir et de nous permettre de te découvrir toujours plus dans nos vies. Seigneur, aide-nous à sortir de notre zone de confort quand il le faut parce qu'elle n'est pas toujours très juste et correcte, parce qu'elle ne nous permet pas de voir peut-être le monde comme tu le vois avec ton amour, parce que parfois notre zone de confort, c'est mettre des barrières avec les autres. Aide-nous à sortir de ces carcans-là pour que nous puissions découvrir avec toi ton amour vrai, véritable. Et Seigneur, quand parfois nous sommes sortis de notre zone de confort par les événements, aide-nous à te voir à nos côtés, à te voir nous permettre de malgré tout grandir et malgré tout découvrir quel Dieu puissant tu es dans ces moments-là. Merci parce que tu es avec nous, tu es notre compagnon de route, que nous ne coupions jamais le dialogue avec toi pour voir que tu es bien présent et que tu agis dans ce monde. Aide-nous à pouvoir cheminer avec toi jusqu'à ton prochain retour. Amen.
Pour cette semaine, je vais te demander d'être à l'écoute. Mais à l'écoute de quoi ou de qui ? Être à l'écoute de cette petite voix qui te pousse à agir sur les situations concrètes de ta vie. Vérifie si cette petite voix provient de Dieu ou non. Tu peux peut-être consulter la Bible, voir si ce genre de demande est en accord avec les principes de Dieu. Tu peux aussi également de prier pour le savoir. Et si c'est le cas, il ne faut surtout pas la faire taire. Si tu es convaincu qu'elle vient de Dieu, écoute-la, suis-la, même si cela te pousse à sortir de ta zone de confort. Et ce sera le cas. Cela vaudra toujours la peine. À toi de jouer.
Ah, mais c'est sur une très chouette action que je vais conclure notre culte espoir. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment avec vous qui êtes dans ce studio, Stéphane, Marilyn. Merci les chroniqueurs pour votre participation, vos chroniques qui se renouvellent de semaine en semaine quand même. Un bravo.
Merci à toi.
Pierrick, merci pour ton partage biblique sur ce personnage de Jonas. Reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
T'es le bienvenu. Et chers auditeurs, chères auditrices, je ne t'oublie pas. Merci pour ta fidélité à notre écoute. Je veux croire que cette heure passée ensemble t'a fait du bien, t'a donné quelques pistes aussi pour cette semaine, quelques défis aussi. Peut-être un tour de studio avec un mot de ce qu'on garde de ce culte pour cette semaine.
Le lien.
La confiance.
Lâcher prise.
Ah, j'ai du mal à résumer en un mot, mais râler. Débattre.
Enfin, on peut y aller.
Se confier.
Très bien, merci. À la semaine prochaine pour un nouveau culte espoir.
C'était le culte espoir. Une heure de culte hebdomadaire préparée par Amandine, Marina, Mildred et leur équipe.